Si l'Église évangélique est divisée sur la terre présentement, c'est pas à cause de différences doctrinales importantes dans le fond, mais parce que des croyants étroits, dans le passé, se sont crus de meilleurs chrétiens que les autres et qui se sont exclus mutuellement de leur fellowship. C'est la vérité. Juste à Grimby puis dans les environs, je pense qu'il doit y avoir pas loin d'une douzaine d'églises évangéliques. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a trop de divisions doctrinales dans l'Église, mais personne ne veut être parmi ceux qui font des compromis pour la paix. Alors, à travers ce message-là, je vais m'efforcer de changer un peu notre façon de voir pour qu'on puisse plus facilement arriver à vivre en paix. Généralement, c'est pas les leaders d'Église qui font les divisions, mais c'est souvent eux autres, sans en rendre compte, qui les amorcent par leur façon d'enseigner, par exemple. Vous allez comprendre. On va commencer par étudier le passage de Jacques 3, 13 à 18. Tout comme 1 Timothée 3, 1 à 7 nous expose les prérequis du ministère de pasteur, Jacques, dans ce passage-là, nous met ici devant les prérequis du don ministère de docteur ou d'enseignant, si vous préférez. Ce passage-là nous enseigne que d'avoir la connaissance des doctrines bibliques ne nous qualifie toujours pas pour exercer un ministère d'enseignement. Celui qui aspire à la charge d'enseignant doit d'abord, obligatoirement, posséder les vertus de caractère qui sont décrites dans ce passage-là. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses diplômes en théologie? Non, mais qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Très important, ça. Même si on a toute la connaissance qu'il faut, notre cœur peut être encore très pollué par toutes sortes de mauvais sentiments. Par exemple, Jacques dit, « Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité ou contre la conviction intérieure. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Bon, le zèle amer parle d'un zèle excessif à ne pas faire de compromis avec la parole de Dieu, ce qui est très souvent juste une façade pour donner libre cours à notre sectarisme. La traduction Tob a rendu l'esprit de dispute par « esprit de rivalité ». Rivaliser avec ceux qui n'interprètent pas certaines doctrines comme nous autres, ça aussi, ça peut prendre des apparences bien spirituelles, entre guillemets, quelquefois. Ce serait vraiment pas sage de laisser un homme comme ça entrer dans un ministère d'enseignement dans l'Église, même si c'est l'homme le plus instruit en théologie de toute l'Église. Alors prenons bien garde de ne pas établir un type qui manque de tolérance envers ceux qui n'ont pas les mêmes opinions doctrinales que lui, parce que c'est quelqu'un qui ne remplit pas les critères du ministère. En Galates 5, 26, Paul a écrit « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. » Paul prévenait ici ceux qui avaient l'habitude d'avoir des arguments avec les autres pour le plaisir. Sous prétexte de ne pas compromettre la vérité, prenons garde de sacrifier les préceptes de tolérance et d'oublier de complaire à notre prochain. La définition de la tolérance, c'est supporter avec indulgence et patience ce qui est contraire à notre sentiment, à notre manière de voir, respect des opinions religieuses et des croyances d'autrui lorsqu'elles diffèrent des nôtres. Alors attention au zèle amer, c'est-à-dire à l'intolérance religieuse. Maintenant, on va parler des qualités de la sagesse. Jacques continue en disant « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. » Notre sagesse, ou notre façon d'enseigner, si vous préférez, pour employer notre langage à nous autres, doit premièrement être pur, nous dit Jacques, c'est-à-dire pur de tout esprit de dispute et de zèle amer dont on a parlé tantôt. Pur veut dire qui est sans mélange, non contaminé, altéré, souillé, obscurci. L'aspirant à l'enseignement doit aussi être pacifique dans sa façon d'enseigner. La définition du mot pacifique, c'est qui aime la paix, qui est favorable à la paix, qui amène la paix, amical, qui cherche à créer une relation harmonieuse entre les hommes. Il doit aussi être modéré, nous dit Jacques. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas être un extrémiste, mais quelqu'un d'équilibré dans son enseignement. Ce ne sera pas quelqu'un qui va exagérer l'importance de la doctrine, puis ce ne sera pas quelqu'un qui va anéantir la doctrine non plus d'un autre côté, ou de son importance. C'est quelqu'un qui va pouvoir exposer la vérité fidèlement, mais sans exagération de son importance. En d'autres mots, ce ne sera pas le genre à monter debout sur l'étape. Il doit être aussi conciliant dans sa façon d'enseigner dans l'Église. Conciliant, ça veut dire accorder ensemble des personnes divisées, d'opinions, d'intérêts, ou de choses qui sont ou qui semblent contraires, attirer à soi. Alors ce ne sera pas quelqu'un qui va prendre position pour un parti ou un autre dans l'Église, puis qui va faire des pressions sur le parti opposé dans le but de le conformer au sien bon gré mal gré. Il va au contraire faire tous ses efforts pour rapprocher les deux partis en un seul. Il va prêcher de façon à les exhorter à se respecter mutuellement, puis à continuer de s'aimer malgré leurs différences. Il va agir comme un diplomate ou un ambassadeur de paix, si vous préférez. L'aspirant à la charge d'enseignant doit aussi être miséricordieux dans sa façon de prêcher. La miséricorde, c'est une vertu qui porte à avoir compassion des misères d'autrui et à les soulager. Bon, celui qui n'est pas miséricordieux dans sa façon d'enseigner est automatiquement légaliste. Mais celui qui est miséricordieux va comprendre la faiblesse. L'enseignant qui n'a pas de miséricorde est tout juste bon à culpabiliser les gens du haut de la chair. Il ne pourra pas aider personne, en réalité. Au lieu de grandir sous l'influence de son enseignement, les gens vont au contraire tous se replier par en dedans. On dit aussi que la vraie sagesse est exempte de duplicité. Le mot duplicité vient d'un mot grec qui veut dire variation, hésitation. La duplicité chez un enseignant qui va enseigner certaines choses en privé, qu'il n'osera pas enseigner publiquement par crainte des hommes ou par esprit de compromis. J'ai connu des pasteurs, moi, qui enseignaient clairement le protestantisme dans leur salon, mais qui n'en parlaient jamais publiquement par crainte de perdre de la popularité dans leur milieu catholique où ils étaient. Alors, quand un enseignant est exempt de duplicité, il est conséquent, il est consistant avec ce qu'il croit, puis fidèle à l'enseigner publiquement aussi bien qu'en privé. Paul a dit en Actes 20:20, « Je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » Il faut aussi qu'un bon enseignant soit exempt d'hypocrisie, nous dit Job. L'hypocrisie veut dire prétendre, acter, imiter une vertu que l'on n'a pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'enseignant doit posséder toutes les vertus puis être parfait avant de pouvoir enseigner. Il ne doit seulement pas prétendre ou faire croire qu'il possède certaines vertus quand il ne les a pas, et de ne pas se donner des airs. Il doit être homme à connaître et à reconnaître ses faiblesses, ses fautes devant l'Église. Il ne doit pas prêcher de façon à se montrer plus saint qu'il est en réalité. Il doit être honnête avec les gens à propos de ses propres difficultés. Un type comme ça va encourager les gens bien plus qu'un autre qui fait semblant d'avoir aucun défaut pour se donner plus d'autorité, puis en projetant l'image d'un homme qui n'a pas de problème avec le péché, puis qui donne quasiment l'impression aux gens que c'est pas normal d'en avoir, comme vous comprenez. Être exempt d'hypocrisie, c'est être honnête avec nous-mêmes, puis avec l'Église. Pour finir, Jacques conclut en disant que le fruit de la justice est semé dans la paix, ou doit être semé dans la paix, comme dit une autre traduction, par ceux qui recherchent la paix. Le sage ne réfute pas une erreur, parce que ça le fâche de voir une erreur, mais parce qu'il craint que cette erreur-là cause un préjudice ou fasse du mal à celui qui le croit. Comprenez-vous? Il va enseigner la bonne doctrine dans le but d'aider, d'éclairer, puis d'apporter quelque chose d'édifiant à la personne qui est devant lui. En tout et partout, il est motivé par l'amour de son prochain et non par le méprisable plaisir de l'argument, ou de prouver qu'il a raison. L'homme de paix ne cherche pas à gagner les arguments, mais à gagner les cœurs pour la vérité. Celui qui aspire à l'enseignement doit avoir la réputation d'être un homme de paix, un homme qui apaise les disputes, un homme soucieux de nourrir la paix parmi les croyants dans l'Église. Autrement dit, sa douceur devra être connue de tous les hommes. La définition du mot douceur, c'est qualité de l'âme qui fait qu'on se prête aisément aux volontés d'autrui et que l'on traite les autres avec une indulgence inaltérable, façon d'agir éloignée de toute espèce de rudesse, violence ou de dureté. On est tous appelés à devenir sages. Alors, fuyons les duels de Bible. De disputer et juger les opinions doctrinales des autres, c'est bien tentant, j'en sais quelque chose, mais c'est contraire à l'esprit chrétien. Le sage ne provoque pas son prochain. Il peut avoir des ennemis, mais lui-même n'est jamais un ennemi pour personne. Alors, comme l'aspirant au ministère d'enseignant, efforçons-nous d'être en tout temps respectueux envers ceux qui ont des croyances différentes des nôtres, même si les croyances en question nous sont offensantes pour notre intelligence, même quelquefois. Si les deux parties ne peuvent pas discuter de leurs différences en toute amitié, ils ne devraient pas essayer de le faire. Éphésiens 4.3 nous exhorte à nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dans le fond, ce qui nuit à l'unité des croyants, c'est pas tellement les différences de point de vue, mais l'esprit de rivalité qui anime la chair de tant de chrétiens. Les différents points de vue sont rien que des prétextes pour la chair en réalité. Vous savez, la vraie paix dans l'Église, c'est pas une question de doctrine, mais d'attitude qu'on prend à l'égard des autres. Le chrétien charnel fait des efforts pour changer les autres puis essayer de les rendre compatibles avec lui-même. Mais l'homme spirituel, le sage, l'homme de paix au contraire, aspire à changer lui-même afin de mieux complaire aux autres. Pour moi, c'est pas important que les croyances théologiques d'une personne ne soient pas les mêmes que les miennes. Si sa piété est véritable, est authentique, cette personne-là est mon frère ou ma sœur dans le Seigneur. C'est John Wesley qui a écrit « Est-ce que ton cœur est aussi droit envers moi que le mien l'est envers le tien? Est-ce que tu aimes et sers Dieu? Cela est suffisant, je te donne la main d'association. » En Luc 9, 48, il est écrit « Quiconque reçoit en mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même. » Une autre traduction a rendu « Quiconque accepte ou accueille comme étant bienvenu. » Jean a dit en Luc 9, 50 « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Alors on voit ici que le Christ était très large. Dieu honore tout homme qui l'honore. Jésus n'a pas considéré cet homme-là comme quelqu'un à se méfier, là, quelqu'un à exclure, mais comme un allié. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal, dit Proverbe 3:30. Quelqu'un a écrit « Il est interdit de dénigrer une autre secte. Le vrai croyant rendra plutôt honneur à tout ce qui se trouve digne d'honneur en elle. » C'est ce que le Christ a fait ici. C'est exactement l'attitude qu'on devrait tous prendre vis-à-vis des autres. C'est quoi la communion fraternelle dont parle la Bible? Bon, ça fait référence au fait qu'on est tous devenus frères de Jésus-Christ, parce qu'on a tous reçu le même esprit que lui, ou on a tous reçu les mêmes affections que lui, si vous préférez. Tous les croyants ont reçu le même esprit d'amour qui les pousse vers la même sainteté. C'est ça qui nous unit devant Dieu. C'est ça qui serait supposé nous unir dans l'Église également. Malheureusement, aujourd'hui, la communion fraternelle, les liens spirituels, ça suffit plus. Ce que beaucoup de leaders veulent de nos jours, c'est pas la communion fraternelle, c'est l'uniformité doctrinale. Il doit être affligeant pour Dieu de réaliser que croire les mêmes doctrines aujourd'hui pour l'Église, c'est devenu plus important que de posséder le même esprit. Il y a un pasteur qui m'a dit que dans une certaine Église qu'il connaît, les choses en sont à un tel point que si quelqu'un n'a pas la même interprétation de l'eschatologie que le leadership, il risque d'être mis en discipline. Où est-ce qu'on s'en va, dites-moi donc? Hein? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Pour être un meilleur témoignage dans le monde, c'est pas de plus d'argent ou de plus de missionnaires que l'Église a besoin aujourd'hui, mais plus de tolérance puis plus d'amour les uns vers les autres. C'est pas le nombre qu'on est qui fait notre témoignage. En fait, si on n'est pas ce qu'on devrait être, plus on va être nombreux dans le monde, plus on va être un mauvais témoignage, comprenez-vous? Le raisonnement, avez-vous déjà réalisé ça? Jésus n'a pas dit que le monde reconnaîtrait ses disciples à leur nombre ou à l'étendue géographique de leur dénomination, mais à leur amour, ce qui est très très loin d'être évident aujourd'hui. La théologie divise, les amis. Combien y a de chrétiens qui étaient de bons amis puis qui ont fini par arrêter de se voir parce qu'il y en a un des deux qui a changé d'église? Si notre amitié n'est pas capable de résister à cette pauvre épreuve-là, c'est parce que notre communion n'était pas établie sur les bons fondements. Par commencer, les chrétiens ne jouissent pas de communion fraternelle parce qu'ils croient les mêmes doctrines ou qu'ils vont à la même Église, mais parce qu'ils ont le même Dieu, le même Esprit, la même foi en Jésus, puis la même espérance. En tout cas, c'est ça qui serait supposé être. Toute autre base de communion entre nous autres est un défausement. Paul a écrit « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Voulez-vous voir quelqu'un de spirituel? Regardez s'il vit en unité avec les autres croyants. Moi, je crois que c'est le droit de tout chrétien en tout temps de choisir librement l'Église à laquelle il veut appartenir. Mais rendu là, il va falloir qu'il apprenne à être fidèle aux autres malgré toutes les différences qu'il va découvrir dans cette Église-là. Tôt ou tard, il va falloir qu'il apprenne la fidélité à son Église. Il faut savoir aussi que même si on trouvait une Église qui répondait parfaitement à toutes nos exigences, je suis loin d'être sûr que ce serait une bonne chose pour nous autres d'en faire partie. Un paquet de gens très différents les uns des autres, avec des points de vue différents, c'est ça qui sanctifie le croyant. Si vous pouvez vivre en paix seulement avec des gens qui pensent comme vous autres, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Même les païens qui n'ont pas le Saint-Esprit sont capables de faire ça. les différents points de vue des autres nous forcent à renoncer, à nous complaire. Juste en nous-mêmes, c'est exactement ce qui concourt à sanctifier notre caractère. Alors, nos différences sont bonnes pour la sanctification. Posséder l'unité de doctrine à l'intérieur de l'Église locale est une bonne chose seulement si elle est naturelle. Parce que là où l'esprit de la libre étude puis des libres convictions est réprimé, les croyants vont être malheureux. C'est pour ça qu'ils vont devenir querelleurs généralement. Puis abrutir les gens par des concepts de soumission exagérés juste pour les empêcher d'avoir leurs propres convictions puis dans le but d'avoir un meilleur contrôle sur eux autres dans l'Église, c'est une véritable infamie. C'est pourtant la sorte d'unité malsaine qu'on a dans certaines églises. Quelle sorte d'unité est-ce qu'on veut créer dans l'Église, en réalité, dans le fond? Hein? L'unité d'un groupe d'animaux réunis sous un même fouet? Mais j'espère que non. Dieu nous propose quelque chose de bien mieux que ça. L'unité parfaite de doctrine, de croyance puis de pratique, c'est une chose qui n'a jamais existé, même dans toute l'histoire de l'Église. C'est impossible de croire toutes, tous les mêmes choses. Alors, quand est-ce qu'on va arrêter de viser ce but-là tout le temps, puis de se battre pour ça, sans cesse? On ne sera jamais tous d'un même avis dans l'Église. Pourquoi qu'on n'écrit pas ça dans notre livre une fois pour toutes? On ne pourra jamais être du même avis sur tout. Mais on peut être d'un même sentiment, par exemple, en tout temps. Puis c'est à ça que Dieu nous appelle. Puis c'est à ça qu'il faut aspirer de toutes nos forces. C'est à ça qu'on devrait travailler. C'est une chose... Bonne pour un leader de viser une certaine unité de doctrine dans l'Église, parce que ça peut contribuer à la paix. Mais leurrons-nous pas, l'unité doctrinale pourra jamais à elle seule produire la vraie paix puis la vraie unité spirituelle à laquelle Dieu nous appelle. On doit plutôt viser à atteindre l'unité de l'esprit, en mettant l'emphase sur les réalités spirituelles qui nous unissent. Romains 14, 1 dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. » D'autres traductions ont rendu « Recevez-le en votre confrérie, sans critiquer ses scrupules. En d'autres mots, cherchez pas à avoir des arguments avec lui. Ne le confrontez pas, ne le bousculez pas. » Quand on lit ce verset-là, on est tous bien d'accord avec ça, parce qu'on pense qu'une opinion, c'est un point doctrinal qui n'a pas la moindre importance. J'ai des nouvelles pour vous autres. On a un exemple d'opinion ici dans le chapitre 14 de Romains. Regardez ça comme il faut, puis vous allez voir que c'est loin d'être une question sans importance que Paul est en train de parler ici. Ceux qui se permettaient de manger des viandes sacrifiées aux idoles pouvaient facilement être accusés d'idolâtrie par les autres. Et si c'était le cas, ils devenaient susceptibles d'être mis en discipline puis être exclus de l'Église. Puis ceux qui mangeaient pas de viande sacrifiée aux idoles pouvaient être accusés à leur tour d'être encore sous la loi puis de même pas être sauvés. Alors une opinion... C'est pas un point doctrinal sans importance. Une opinion, selon l'exemple que ce passage-là nous donne, c'est toute croyance sincère, quelle que soit son importance. Alors, pratiquement, Paul nous exhorte à pas confronter ou mettre en boîte des chrétiens qui croient, selon nous autres, des erreurs doctrinales, à moins qu'ils soient d'accord pour en parler eux-mêmes. Dans le cas contraire, on doit simplement respecter la sincérité et la foi de ces personnes-là. C'est ce que Paul prescrit dans tout le chapitre. C'est pas moi qui invente ça. Mais aujourd'hui, il y en a plus de respect. Souvent, un chrétien qui a une opinion différente à propos de quelque chose ne respecte pas les autres. Il monte debout sur les tables puis il essaie de faire des disciples. Des fois, le manque de respect vient du leadership. S'il y a quelqu'un qui développe une autre opinion doctrinale que lui, ou qui n'est pas d'accord avec le saint credo de la dénomination, on le convoque, on essaie de le faire changer d'idée. Puis même s'il s'agit d'une personne douce et qui aime la paix, on la menace de lui retirer toutes les responsabilités qu'il avait dans l'Église, s'il ne se rétracte pas. Bon, puis si ça ne réussit pas à l'intimider, on lui fait comprendre qu'il serait mieux peut-être de s'en aller. Je me souviens de la première Église que j'ai fait partie. Moi puis le pasteur, on avait une différence doctrinale à quelque part. Moi, je lui disais, fais-toi-en pas, crains pas, je ferai pas de trouble à l'Église avec ça. Je te promets que je vais garder mes convictions pour moi puis que je n'en parlerai pas à personne. Il me dit « Non, ça suffit pas. Je veux que tu renonces à croire ça, puis je veux que tu croies comme moi. » C'est ça qu'il voulait. Bon, mais ça, c'est ça que je veux dire par le manque de respect des convictions. Comment voulez-vous que la paix demeure, que la paix existe dans une église comme ça? On doit se respecter les uns les autres dans l'église évangélique. Qu'il s'agit de n'importe quelle dénomination évangélique, on devrait apprendre à se respecter. Puis même plus loin que ça, respecter la sincérité des croyances des gens qui ne sont pas dans les églises évangéliques non plus. C'est vrai que la sincérité ne sauve pas, mais Dieu ne nous a jamais dit de mépriser la sincérité non plus. Méprisons pas la sincérité qu'ont plusieurs témoins de Jéhovah ou plusieurs catholiques, par exemple. On devrait s'en réjouir, au contraire, puis regarder cette sincérité-là comme une opportunité pour nous autres. Là où il y a de la sincérité, il y a de l'espoir. La sincérité, c'est une terre fertile pour semer la vérité. Méprisons pas les gens dans l'erreur. Respectons la sincérité des gens, puis prions que Dieu travaille avec ça, puis les amène à plus de lumière. Quand est-ce qu'on va arrêter de regarder tous ceux qui ne croient pas comme nous autres, comme des ennemis ou des faux prophètes? Les catholiques sincères, les témoins de Jéhovah sincères, puis même les athées sincères, sont pas nécessairement des ennemis de Dieu, mais des pauvres gens dans l'erreur. Au lieu de les mépriser, on serait bien mieux de prier pour eux autres. Quand le sage méprise l'ignorant, c'est le sage qui devient le plus méprisable aux yeux de Dieu. On a une leçon bien importante à tirer du chapitre 14 de Romains aujourd'hui. C'est que l'unité d'une église est en grande partie dépendante de la tolérance puis du respect des convictions doctrinales des autres. J'ai pas dit que la doctrine n'était pas importante, mais on doit pas passer la doctrine avant la loi royale, qui consiste à aimer notre prochain comme nous-mêmes. T'aimes ça quand les autres respectent tes convictions? Alors accorde le même respect aux autres. Comme Paul l'enseignait aux Romains, je pense qu'on devrait envisager nos différences doctrinales plutôt comme des opportunités de cultiver la tolérance puis l'amour entre nous autres. Le respect compte beaucoup dans l'amour fraternel. Si t'es pas capable de respecter les convictions doctrinales de quelqu'un, tu l'aimes pas. C'est pas vrai. Mais aujourd'hui, l'Église, avec un grand E, est même pas capable de s'aimer elle-même. Comment voulez-vous qu'elle aime le monde? Quand Dieu nous regarde partir évangéliser dans tous les sens, chacun pour son petit poulailler, pour sa petite dénomination, pour sa petite église, il a peut-être envie de nous dire, médecin, guéris-toi donc toi-même, d'abord. Dans une certaine église baptiste, il y avait un croyant qui avait des petites responsabilités dans l'église. Pas des responsabilités d'enseignement, mais juste des petites responsabilités de service. Un beau jour, il s'est mis à assister à une couple de réunions d'un autre groupe qui commençait à s'installer en ville. L'Église était pas du tout en faveur de ce groupe-là. C'était un groupe qui avait des tendances charismatiques un petit peu exagérées, puis même déplacées. Le leadership de l'Église a senti l'unité de l'Église menacée par ça. Alors, il fallait faire quelque chose. Mais l'erreur qu'il y a eu, c'est qu'au lieu de se contenter de donner des avertissements de correction biblique à ce frère-là, le leadership lui a lancé un ultimatum. Puis ils lui ont retiré ses responsabilités. Ils ont pensé que ça allait l'obliger à délaisser l'autre groupe, mais ça, c'était de la très mauvaise psychologie. Parce que le type qui s'est vu dépouillé de ses responsabilités dans l'Église s'est senti méprisé puis poussé au pied du mur. Puis il est parti de l'Église. Alors ça a produit exactement le contraire de ce qu'on voulait que ça produise. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire, hein? On aurait pu simplement aller trouver le frère en question puis lui dire, garde bien, frère, selon ce que la Bible nous enseigne, là, ce groupe-là, auquel les réunions auxquelles tu assistes, est déséquilibré. Puis même si tu le vois pas toi-même présentement, on sait qu'éventuellement, ça risque de finir par être désavantageux pour ta vie spirituelle. On respecte tes nouvelles convictions, mais d'un autre côté, il faut que tu comprennes aussi que tu dois respecter les convictions de l'Église ici. Pour l'amour de la paix, puis de la conservation de l'unité de l'Église, on est obligé de te demander de pas chercher à influencer les autres avec tes nouvelles convictions. T'es notre frère, c'est pas parce que t'as des convictions doctrinales différentes que ça va changer. Tu peux continuer à remplir tes responsabilités, la même chose qu'avant. Si t'es capable de nous respecter, on est capable nous autres aussi. Si t'as vraiment décidé de changer d'église, vas-y, fais tes expériences, puis que Dieu t'accompagne. On t'a toujours aimé, puis on va pas arrêter de le faire à cause de ça. Va ton chemin, puis sache que si tu décides un jour de revenir, tu seras toujours le bienvenu. Voyez les amis, au lieu de chercher à gagner son cœur de cette façon-là, le leadership a cédé à la paranoïa, puis il a préféré prendre des mesures sectaires, disciplinaires et dénuées d'amour. Puis ils ont perdu cette famille-là pour de bon, à mon avis. Alors, quand quelqu'un veut s'en aller, pour l'amour de lui, laissez-lui donc la porte ouverte. Laissez-le donc partir la porte ouverte, pas en claquant la porte derrière son dos. Quand on entend parler d'un autre groupe, là, puis de leurs croyances, qui sont différentes des nôtres, qu'est-ce que notre chair a envie de dire? Et qui connaissent pas la Bible. Ça se peut-tu être séduit comme ça par le diable? Bon, l'esprit de dispute nous rend hostiles devant les différences doctrinales. On dénature, puis on exagère la gravité de leurs différences d'interprétation pour mieux les condamner puis être sûr que nos gens n'aient pas la moindre envie de s'associer avec eux autres. Savez-vous à quoi on ressemble quand on agit comme ça? On a exactement la même attitude que les pharisiens avaient envers Jésus quand il a pardonné les péchés du paralytique, là. Luc 5:21 dit, « Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui pourra faire des blasphèmes? » Les pharisiens sont immédiatement montés debout sur les tables, puis ils ont taxé Jésus de blasphème. Je veux dire, ils n'ont pas été que le dos de la cuillère, là, je trouve. Il me semble qu'ils auraient dû au moins prendre le temps de lui demander, « Bon, pourquoi tu parles comme ça? Sur quoi tu te bases pour dire ça? » Avant de le condamner immédiatement, puis aussi radicalement, publiquement en plus. C'est pas un peu ce qu'on fait souvent avec les gens qui appartiennent à d'autres groupes religieux, ou même avec des frères de notre propre Église. Quand il y a quelqu'un de différent qui arrive dans le décor, qu'est-ce qu'on fait? Ben, généralement, la paranoïa nous prend, puis là, on veut s'en débarrasser. Hein? On veut s'en débarrasser. Puis le meilleur moyen de se débarrasser de quelqu'un, c'est de le faire passer pour un faux prophète. Ce qui va m'amener à parler des sectes un petit peu. À l'intérieur d'un certain pamphlet que j'ai lu sur les caractéristiques des sectes, l'auteur les a appelées les sectes de perdition. Mais, bibliquement parlant, une secte, c'est pas nécessairement un endroit où une personne va perdre son âme. Le christianisme lui-même était une secte du judaïsme. En Acte 24:5, on parle de la secte des Nazaréens. Acte 26:5 nous enseigne que le pharisaïsme était aussi considéré comme une secte du judaïsme. En 1 Corinthiens 11:19, Paul lui-même dit qu'il peut y avoir de bonnes sectes dans l'Église. Il dit, « Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. » Bon, le contexte de tout ça, c'est qu'il y a bon nombre de croyants qui prenaient le repas du Seigneur de façon irrespectueuse. Puis apparemment, il y a quelques familles qui approuvaient pas ça, puis qui se tenaient à l'écart, puis faisaient bien. Ça dit pas qu'ils ont abandonné l'Église, au contraire. Ils restaient là, mais ils se démarquaient des autres, puis ils participaient pas au repas du Seigneur de la même façon qu'eux autres. C'est ça que le contexte semble indiquer, là. Alors, leur secte était une façon de donner le bon exemple aux autres. Maintenant, il y a les sectes qui ne sont pas bonnes dans le corps de Christ. Paul les classe parmi les œuvres de la chair, en Galates 5:20. Il dit, il parle des disputes, des divisions, des sectes, etc. Certaines personnes ont quelques différences doctrinales, puis là, ils se mettent à faire des drames avec, à troubler l'Église, puis à nuire à son unité. Ce sont des croyants charnels qui sont incapables de complaire à leurs prochains. Alors, il arrive souvent que c'est ces gens-là qui se séparent de l'Église en entraînant les disciples après eux. Ils sont pas capables de diriger l'Église dans la direction qu'ils veulent, alors ils se séparent de l'Église en emportant ceux qui sont d'accord avec eux autres. Ils se nomment eux-mêmes pasteurs de leur groupe, ils en deviennent les chefs, puis là, ils peuvent diriger les autres selon leur propre volonté. Pour finir, il y a une dernière sorte de secte dont on nous parle en 2 Pierre 2:1 qui dit « Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, reniant le maître qui les a rachetés, etc. » Plus loin dans le même chapitre, on voit que ces faux docteurs-là se livraient eux-mêmes au péché, puis qu'ils entraînaient les croyants à faire pareil. Jim Jones était un type comme ça, David Koresh, Charles Manson, Moïse David, puis bien d'autres qu'on connaît pas. Ça, c'est des vrais faux prophètes. Eux autres enseignaient des doctrines de péché, puis eux autres, c'était des vraies sectes de perdition. Mais les gens qui se séparent de l'Église pour des mauvaises raisons, ou les groupes différents d'une autre, qui croient pas les mêmes doctrines, ou qui les voient pas de la même façon que nous autres, sont pas nécessairement des sectes de perdition. C'est là que j'accroche, moi, quand je lis des dépliants comme ça, parce que c'est pas le premier sur lequel je tombe. On donne la nette impression que tous ces groupes-là sont formés entièrement d'hypocrites, d'antichrists, de faux prophètes, de faux chrétiens, puis de gens qui sont pas sauvés, ou des gens qui sont ennemis du christianisme à cachette, des gens qui font semblant d'être chrétiens. C'est pas vrai, ça. On s'efforce de discréditer tout le monde au maximum pour faire bien sûr que les gens qui lisent le pamphlet comprennent qu'il n'y a à peu près rien que l'Église à laquelle appartient l'auteur du pamphlet, qui est composée de vrais chrétiens. Alors, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça étroit un petit peu comme façon de penser. J'en ai connu des gens, moi, qui faisaient partie de des sectes un peu bizarres, où le leader exerçait une autorité excessive, puis qui connaissait très mal la Bible. Mais en parlant avec certains d'entre eux autres, je voyais bien qu'ils avaient la tête pleine d'erreurs théologiques, mais je me rendais bien compte en même temps qu'ils avaient vraiment connu la repentance, la foi, la grâce de Dieu, puis qu'ils avaient les fruits d'une vie changée aussi. Le fameux petit pamphlet que j'ai lu disait ceci, « Les sectes ont ceci en commun, elles se prêchent elles-mêmes. » Bon, c'est absolument vrai. Mais c'est toujours pas ça qui fait d'eux autres une secte de perdition. J'ai connu des pasteurs évangéliques, moi, qui se prêchaient eux-mêmes dans l'Église. Ils élevaient tellement l'importance de leur ministère aux yeux des gens, puis ils mettaient tellement l'emphase sur la soumission que les membres leur devaient, qu'on se demandait où était passé Jésus-Christ, des bouts. C'était pourtant une Église évangélique qui prêchait le plan de salut, puis qui était composée de gens qui étaient nés de nouveau. Moi, je trouve que celui qui condamne tous les autres groupes, à part du sien, est en train, lui aussi, de se prêcher lui-même. Alors, on fait bien de condamner les erreurs qu'on peut retrouver dans les autres groupes autour de nous autres. Mais on fait pas bien de tous les juger comme des faux prophètes, des hypocrites religieux, qui sont pas sauvés, par exemple, puis de les dépeindre comme des sectes de perdition. C'est pas juste. C'est pas tous ceux qui enseignent des fausses doctrines qui sont des faux prophètes, vous savez. On doit pas condamner comme faux prophètes l'ignorant qui parle comme lui. Je pense qu'on devrait être capable de faire la différence entre un faux prophète puis quelqu'un qui est simplement dans l'erreur. Encore une fois, comme le dit Paul en Romains 14, c'est la sincérité du cœur d'une personne qu'on doit regarder pour juger de ça. Les vrais faux prophètes ne sont jamais sincères dans le Seigneur. L'absence de sincérité, c'est justement ça qui fait d'eux autres des faux prophètes. Leurs fausses doctrines sont seulement les fruits de leur fausseté de cœur. Tandis que les fausses doctrines des gens sincères sont seulement dues à une mauvaise instruction. On se dit souvent, « Oh, si cette personne-là était sincère, elle abandonnerait son erreur puis elle accepterait ce que je lui dis. » Trompez-vous pas. Le fait qu'une personne tienne à ce qu'elle croit puis qu'elle se laisse pas convaincre facilement, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sincère. Je pense que quand on dit ça des gens, c'est juste qu'on cherche vraiment des raisons pour les condamner. On est presque heureux intérieurement quand ils nous écoutent pas, parce que c'est ça qu'on attendait depuis le début pour se dire « Ah, je le savais, ils étaient pas sincères avec le Seigneur. » Vrai ou pas vrai? Il faut premièrement qu'on tienne compte de l'âge spirituel d'une personne. À cause d'un manque de maturité dans le Seigneur, il se peut bien que celui qui croit à l'erreur n'ait pas un esprit aussi enseignable qu'il devrait avoir, puis ça, ben ça fait qu'il est borné un petit peu. Les chrétiens charnels ressemblent quelquefois à des faux prophètes. S'ils occupent une fausse position doctrinale, c'est peut-être parce qu'ils ont été endoctrinés de cette façon-là par quelqu'un d'autre au début de leur vie chrétienne. Qu'il s'agisse d'une bonne ou d'une mauvaise théologie, vous savez, c'est très très souvent juste une question d'école. C'est pas la question d'être ou non un faux prophète ou d'être sincère ou non. Il y a beaucoup de gens sincères qui ont été mal endoctrinés dès le début de leur conversion, puis qui ont vieilli avec ça, puis qui se sont affermis là-dedans. Alors, il faut pas être surpris si ces gens-là ne boivent pas nos paroles quand on vient leur présenter le contraire de ce qu'ils ont cru toute leur vie. On réagit bien pareil, nous autres aussi, quand il y a quelqu'un qui vient nous apporter quelque chose de différent de ce qu'on a appris. Pourtant, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas nous autres qui est dans l'erreur, hein? Je dirais même plus. À son retour, le Seigneur va tous devoir nous corriger à un endroit ou à un autre, vous savez. Ça veut-tu dire qu'on n'est pas sincère aujourd'hui? Quand on lit la Bible, ça veut-tu dire qu'on est des hypocrites? Ça veut-tu dire qu'on est des faux prophètes parce qu'on enseigne même ces choses-là? Alors, allons pas trop vite avant de crier aux faux prophètes. Parce que si Dieu nous jugeait selon les mêmes standards qu'on juge les autres, je vous jure, ça nous ferait une belle tête des fois, hein? Alors, avant de condamner tous les groupes qui n'ont pas exactement la même théologie que nous autres, demandons-nous si c'est pas l'orgueil ou notre propre justice qui nous pousse à être intolérants puis à les juger injustement et sévèrement. La définition du mot intolérance est disposition à faire violence à ceux avec lesquels on diffère d'opinion. Quelquefois, il ne s'agit pas de la violence physique, mais de la violence verbale. On ne le fait pas devant eux autres, on le fait dans notre Église quand on parle d'eux autres. En 1 Corinthiens 15:15, Paul a écrit, « Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. » Bon, le contexte de ça, on s'en souvient, là. Il y a une différence entre une personne qui enseigne l'erreur puis un faux prophète. Tous les faux prophètes sont dans l'erreur, mais c'est pas tous ceux qui sont dans l'erreur qui sont des faux prophètes. L'erreur peut faire de nous un faux témoin, comme a dit Paul dans notre texte, mais pas nécessairement un faux prophète. Comme j'ai dit tantôt, être dans l'erreur doctrinalement, c'est pas toujours une question de manque d'honnêteté à interpréter la Bible, mais c'est très très souvent une question d'école. La plupart des gens, qu'il s'agisse des baptistes, des pentecôtistes, des témoins de Jéhovah, des adventistes ou des catholiques, n'importe qui, les gens demeurent généralement dans les doctrines dans lesquelles ils ont été enseignés au début de leur foi, entre guillemets. Puis comme ils ne possédaient pas encore une connaissance des Écritures qui leur permettait de discerner eux-mêmes les choses qu'ils entendaient, ben, ils ont accepté ce qu'on leur enseignait, puis ils se sont fortifiés dans ces mêmes choses-là tout au long de leur croissance, s'il y a eu croissance. Au bout d'une dizaine d'années, ben, ils sont collés au fond de la poêle, comme on dit. Ils ont des croyances figées. Mais c'est pas ça qui les rend plus méchants. Parce que si on veut être parfaitement honnête, c'est exactement le même processus qu'on a suivi nous autres-mêmes en tant que chrétiens. Tout ce qui n'est pas strictement fondamental devient une question d'opinion personnelle. J'ai le droit d'interpréter la Bible librement, selon ma conscience. Vous avez le droit de le faire aussi. Puis vous n'avez pas le droit de me pénaliser ou de me faire des menaces pour que je change d'opinion. Alors, à moins qu'il s'agisse vraiment de doctrines nuisibles et pernicieuses pour l'Église, je pense que dans l'intérêt de la paix, il est plus sage de laisser les gens conserver leurs propres opinions plutôt que de faire des histoires avec les moindres choses, puis de faire éclater l'Église en morceaux. Une erreur doctrinale, c'est pas la fin du monde, mes amis. Les différences doctrinales, quand il y a de l'amour, c'est pas dangereux pour l'Église. Mais celui qui sème le dogme, par exemple, va récolter la querelle puis la division. Moi, j'ai pour règle de jamais parler de doctrine avec un croyant d'une autre opinion que moi, sauf dans un but curatif, dans le but de lui apporter guérison dans le cas où il serait en train de souffrir à cause d'une mauvaise croyance. À un moment donné, il y a un croyant qui arrive chez nous comme ça, un jeune croyant, puis il était à la veille de quitter l'église, il était débordé, il y avait des combats intérieurs, il était tout mélangé. Là, il m'a dit un peu ce qu'il croyait, c'est quoi qu'il chicotait, puis j'étais obligé de lui dire, « Mon pauvre ami, on t'a fait manger du poison, là. T'es, spirituellement, tu t'es fait empoisonner par cette petite doctrine-là. Là. C'est pour ça que tu souffres aujourd'hui. » Alors, je m'en suis permis là de parler de doctrine avec lui dans le but de le délier, puis de le libérer de cette fausse croyance-là qui le rendait malheureux. Alors, moi, je considère de plus en plus la théologie comme quelque chose de personnel. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu, Romains 14, 22. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, Romains 14, 16. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère, 1 Corinthiens 10, 29. Quelqu'un a dit, si je rencontre un frère qui n'est pas de la même position que moi, j'essaie de le convaincre. Si je ne réussis pas, je pardonne son erreur et respecte son intégrité. Paul a écrit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à pas se parler dans le dos, autrement dit, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans les mêmes points de vue, les mêmes doctrines, puis la même théologie, non, mais dans un même esprit et dans un même sentiment, 1 Corinthiens 1, 10. La Bible parle beaucoup de ça, le même sentiment. Ayez un même sentiment, vivez en paix, 2 Corinthiens 13, 11. Ayant un même sentiment, un même amour, Philippiens 2, 2. À d'être d'un même sentiment dans le Seigneur, Philippiens 4, 2. D'avoir les mêmes sentiments les uns vers les autres, Romains 15, 5. Des mêmes sentiments pleins d'amour fraternel, 1 Pierre 3, 8. Ces textes-là, et bien d'autres, nous révèlent assez clairement la place que doivent occuper les sentiments dans la vie des croyants, c'est-à-dire ressentir ce que les autres ressentent. Être sensible, c'est essentiel à la réalisation de l'unité du corps de Christ. En Actes 15, 39, ça dit de Paul et Barnabas, ce dissentiment fut assez vif pour être la cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Cet épisode-là dans la vie de Paul nous montre ce que ça peut produire de ne pas être d'un même sentiment. Être en dissentiment, c'est de ne pas vouloir considérer les raisons qui portent les autres à ne pas être du même avis que nous autres. Quand on refuse d'essayer de comprendre le point de vue d'une autre personne, on ne fait rien que se complaire en nous-mêmes, dans le fond. Aux yeux de Dieu, mieux vaut être honnêtement dans l'erreur que de faire des querelles avec ce qu'on croit être la vérité. Considérons avec respect l'opinion d'autrui, même si elle est totalement à l'opposé de la nôtre. Soyons conciliants, aimons la paix et l'unité d'esprit. Si on ferait tout ça, il n'y en aurait pas de division dans le corps de Christ. Notre témoignage serait bien plus fort dans le monde. Quand les doctrines sont devenues plus importantes que les vertus dans notre Église, je dis qu'on est égaré, là. Quand l'exactitude théologique est plus importante que l'édification, je dis qu'on a perdu le pourquoi Dieu nous a donné les Écritures. Il y en a une couple, je vous jure, là, qui mériterait bien de se faire enlever le Bible deux ou trois ans. Ça les forcerait peut-être un petit peu, enfin, à porter leur attention sur l'essentiel du christianisme un peu plus. C'est quoi les fausses doctrines que les apôtres ont combattues ou défendues? Je vais vous déjà poser la question. En Galates, Paul a combattu le salut par les œuvres méritoires, puis il a défendu la justification par la foi. Bon, ça valait la peine de se battre pour ça, parce que c'était une question de salut pour les gens. En 2 Timothée 2,18, Paul a défendu la doctrine de la résurrection des morts, parce que c'est sur elle que repose toute l'espérance chrétienne, puis c'est elle qui motive la persévérance du chrétien. La résurrection, c'est ça qui fait toute la joie du croyant, en fait. Si on enlève ça au croyant, il n'y a rien qui va rester, je veux dire, il n'y a rien que la peur de l'enfer qui va rester pour le faire avancer. Ça, ça fait pas des enfants forts. Si Paul avait laissé ça rentrer dans l'Église, cette fausse doctrine-là, qu'il n'y avait pas de résurrection, ça aurait eu des conséquences énormes. Alors, on comprend pourquoi il a été si ferme en opposant ça. L'apôtre Jean, quant à lui, a censuré les faux docteurs qui niaient que Jésus soit le Christ en 1 Jean 2, 22. Ça aussi, c'est important, pas vrai? L'apôtre Pierre a censuré les faux docteurs qui prodiguaient des perversions sexuelles aux jeunes croyants en 2 Pierre 2, 18. Je veux dire, toutes les erreurs doctrinales que les apôtres ont censurées étaient des choses extrêmement graves, pas des choses insignifiantes comme aujourd'hui. Je connais une église de 400 membres qui a failli se diviser à propos de la question du port du voile. Bon, je comprends que ça vaille la peine de faire une division pour ça. C'est une question théologique tellement importante. Je veux dire, on ne peut pas faire de compromis. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je connais un pauvre pasteur qui prêchait de faire des efforts pour s'éloigner du péché, là, puis de mener une vie digne du nom de chrétien. Puis il y a quelqu'un qui s'est levé durant la réunion puis qui l'a accusé de prêcher un salut par les œuvres. Je veux dire, le type est parti de l'Église puis il s'est mis à faire des téléphones à plusieurs membres pour essayer de faire une division avec ça. Les moindres choses peuvent prendre des dimensions ridicules dans l'esprit de celui qui est étroit. Alors faisons attention à ça. Jésus doit regarder son Église aujourd'hui puis se dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Des bouts, je vous jure, ça ne doit pas être encourageant. Quand Dieu regarde sur la terre, il voit des croyants divisés, mais il ne voit rien qu'une Église. Alors soyons comme Dieu. Élargissons-nous les uns les autres, les uns envers les autres, comme le disait Paul aux Corinthiens. Je ne veux pas dire qu'on devrait souscrire aux erreurs des autres sans jamais rien dire, mais on doit regarder au-delà des erreurs doctrinales des fois, puis voir le chrétien qui est derrière. Un évangéliste a dit, « Dieu n'a pas mis les différentes églises sur la terre pour faire une course ou pour faire un concours de beauté, mais pour prêcher le salut au monde. » Il y a un certain proverbe qui dit que quand deux sages comparent leurs idées, ils en produisent une meilleure au lieu de se livrer combat. C'est un peu l'attitude qu'on devrait prendre, je pense, quand on rencontre quelqu'un qui croit différemment. Je parle de quelqu'un de chrétien, là, évidemment. Faire des grosses divisions avec de petites différences, c'est le propre du croyant charnel. Reconnaissons donc plutôt la richesse de nos différences, puis cessons de faire du mal au corps de Christ, du mal à nous-mêmes, puis à notre témoignage, dans le fond. En parlant des pharisiens, Jésus a dit, « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. » En disant, « Laissez-les », Jésus voulait dire, « Allez-vous-en en paix, cherchez pas la chicane, partez, c'est tout. » Ça, c'est la job des prophètes, ça, de censurer. C'est pas la job de tout le monde. C'est vrai que les circonstances ne nous permettent pas toujours de fuir les confrontations, mais il est de très mauvais goût de les rechercher, par exemple. Il y en a plusieurs qui recherchent ça, qui aiment ça. J'ai connu un pasteur qui aimait tellement les confrontations que dans ses excès de zèle, il courait derrière les religieuses puis les témoins de Jéhovah dans la rue pour le plaisir de pouvoir argumenter avec eux autres dans le but de leur montrer sa supériorité en connaissance biblique. Mais un zèle comme ça n'est pas en harmonie avec l'esprit de Jésus. L'homme spirituel possède des sentiments beaucoup plus nobles. Le serviteur du Seigneur peut combattre les doctrines fausses, mais il doit le faire avec douceur, puis dans le but d'aider la personne dans l'erreur, pas dans le but de l'humilier, puis de se glorifier de l'avoir fait en plus. On doit regarder personne comme des adversaires, mais comme des âmes à délier, puis à aider. Le sage, l'homme de paix, est l'adversaire de l'erreur, mais l'ami des gens qui le sont. Si on ne respecte pas les gens à qui on parle, ils ne nous écouteront pas. Pour que les gens nous écoutent, il faut qu'ils nous aiment. Puis ils vont nous aimer seulement si on les respecte. Un certain M. Keith Price a écrit quelques principes de communion fraternelle entre chrétiens que je trouve pas mal intéressants, puis je vais les énumérer ici, quelques-uns du moins. C'est dans la vie de Christ, pas seulement dans la compréhension des Écritures, que se situe le fondement de notre communion fraternelle. Ceux qui participent à la vie de Christ participent automatiquement à la nôtre. Notre communion découle beaucoup plus d'une relation d'amour que d'un échange sur des points doctrinaux. Nous cherchons donc à démontrer que la vie de Dieu par Jésus-Christ crée un lien plus fort et plus étroit entre chrétiens que celui que pourrait créer une appartenance à une même organisation ou à une même Église. Une vie commune en Jésus-Christ définit le fondement même de notre communion fraternelle. Ainsi, nous ne rejetons aucune personne en raison du système, de l'organisation ou de la dénomination auquel cette personne pourrait être affiliée. À nos yeux, il n'est pas responsable de ce qui se passe dans ce système, cette organisation ou dénomination. À moins que des chrétiens nous demandent d'agir à l'encontre de ce que notre conscience nous dicte, nous conserverons nos liens fraternels. Ceci signifie, si nous saisissons bien le message des Écritures, que nous ne nous séparerons pas de nos frères, sauf si eux-mêmes se séparaient de Christ. Nous ne jugeons pas la communion fraternelle nécessairement synonyme d'accord absolu. C'est pourquoi nous estimons qu'il est parfois important d'exprimer notre amour tout en se soumettant aux autres malgré le manque d'accord. Ainsi, nous n'empêchons pas qu'un plus grand bien susceptible d'en résulter puisse se produire. Refléter un amour prêt à couvrir les fautes est plus conforme au comportement biblique que celui de constamment relever les sujets de désaccord. Conséquemment, nous serons davantage connus pour notre amour que pour ce qui nous oppose. Nous respectons les gens et nous ne voulons pas les pousser à agir en uniformité avec les autres sans qu'ils aient la conviction de le faire. Plutôt, notre communion dans l'esprit servant à la discussion de nos divergences devient donc un moyen très efficace de conduire les autres ou d'être soi-même conduit vers la lumière de la parole de Dieu. Fin de citation. Moi, je dis qu'un vrai croyant ne peut pas être dans l'erreur. Il ne peut pas être dans l'erreur pour la simple raison qu'en étant en Christ, il est dans le véritable, nous dit l'Écriture. Il peut se tromper dans l'interprétation de certains versets bibliques, mais ça ne fait pas de lui un incroyant pour autant. Il n'y a pas de pire erreur que de se croire seul dans la vérité, puis il n'y a pas de pire enténébrement que de se croire seul dans la lumière. Lequel est le plus pharisien, hein? Celui qui l'est ou celui qui accuse tous ceux qui ne font pas partie de son groupe d'en être? Alors, reconnaissons que quiconque pratique la justice est né de lui, malgré les erreurs auxquelles il peut encore adhérer.